Bac FM, il est 19h, vous nous écoutez chez vous, en voiture, au boulot ou dans un commerce, peut-être même, pourquoi pas. Eh bien, un nouveau rendez-vous, ça tombe bien, dans Job où je tire le portrait d'un artisan, d'un commerçant. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un lieu d'histoire. Celui qui de tout temps a fait vivre et continue de faire vivre les plus grandes places comme les villages, là où tout se passe et où tout se dit. Balzac disait même que le comptoir d'un café et le parlement du peuple, c'est entre autres ce que l'on va évoquer avec mes invités. Bonjour Séverine et bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors vous êtes gérant de la brasserie Le Carnot.
C'est ça.
Qui est place Carnot à Nevers, même pour préciser à nos auditeurs. Séverine, vous êtes salariée dans cette même brasserie.
C'est bien ça.
On va revenir tout au long de l'entretien sur plusieurs aspects, votre installation, les différentes difficultés que vous avez pu rencontrer et les avantages aussi qu'il y a à être à son compte, peut-être s'il y en a.
Il y en a.
Il y en a. Il y a des avantages, il y a des inconvénients.
Exactement.
On reviendra dessus.
Comme dans tout.
On parlera de votre relation avec la clientèle aussi, avec la concurrence. Alors, je mets des guillemets avec la concurrence parce que ça peut être un avantage comme un inconvénient d'avoir de la concurrence aussi.
Totalement.
Et puis d'autres points aussi qui concernent votre profession qui, avant tout, est une passion. Justement, est-ce qu'il faut être passionné pour tenir un bar, une brasserie?
Oui, il faut être passionné, il faut aimer ça. Déjà, avoir la relation avec la clientèle et puis avec ses salariés aussi. Parce que si on n'est pas passionné de tout ça, je pense pas qu'on y arrive. Après, il y en a, ils y arrivent, malgré qu'ils ne connaissent pas le boulot. Donc voilà, je pense qu'il faut un minimum de passion, oui.
Alors je dis bar, brasserie, parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes une brasserie. Mais est-ce que vous préférez être considéré comme un bar ou plutôt une brasserie? Est-ce qu'il y a une préférence dans l'aspect du métier?
Plus pour brasserie,
ouais.
Parce que dans le mot brasserie, il y a quand même le mot bar dedans.
Ouais.
Donc ce qui permet de faire de la restauration. Et du bar aussi.
Elle est importante cette restauration pour votre enseigne à vous. Il y a des bars qui s'affichent clairement comme uniquement bar, qui ne veulent pas faire à manger. Est-ce que vous, la brasserie, on reviendra aussi tout à l'heure justement sur ce pourcentage restauration-bar, mais est-ce qu'elle est importante, le côté brasserie, c'est le plus important pour vous?
Ah oui, elle est très importante, parce que moi j'ai toujours été dans la restauration de base, vraiment en restauration. Après, j'ai eu le plaisir de reprendre cette brasserie qui fait bar aussi, mais principalement brasserie, parce qu'on fait de la cuisine, etc. Et c'est mon principal corps de métier. Ouais.
On va revenir tout à l'heure, justement, sur comment vous êtes arrivé à reprendre cette enseigne, à comment vous êtes lancé, justement, dans la restauration et dans le bar. Mais quel est votre rapport, depuis plus jeune, avec, justement, cet univers-là, cet univers des bars? Est-ce que, je sais pas, votre entourage vous emmenait souvent là-bas? Est-ce que, plus jeune, pendant vos études, vous alliez souvent au bar entre amis? Est-ce que vous avez toujours eu un rapport avec ce milieu-là?
Bien sûr, mes parents, ils ont eu un restaurant... étant jeune, et moi j'ai toujours voulu faire comme mes parents.
Vous avez grandi là-dedans.
Exactement. Mon père était cuisinier, chef cuisinier, j'ai voulu faire comme mes parents, et j'ai eu la chance de persévérer là-dedans pour faire ça.
Séverine, vous, alors, si j'ai bien compris, vous n'étiez pas dès le début dans la restauration ni dans le bar, vous avez fait autre chose avant, mais on va revenir dessus, mais vous avez toujours traîné les bistrots, si je peux me permettre.
Alors, depuis que je suis toute petite, mon père il m'emmenait avec lui, donc dans les bistrots, boire un café, boire son petit blanc cassis, comme ils disent. Donc ouais, j'ai toujours connu cet univers. Après, c'était pas du tout mon principal corps de métier.
Ouais, vous aviez pas anticipé d'atterrir au Carnot pour travailler là-bas.
Pas du tout.
C'est les aléas de la vie qui ont fait ça.
C'est ça.
Si je peux dire aléa.
Après, ouais, c'est par passion qu'après j'ai continué là-dedans. J'ai rencontré ce métier par hasard, totalement par hasard.
Et on reviendra tout à l'heure sur la restauration et le débit de boissons, le choix que vous avez fait aussi de ne pas être simplement bar ou simplement restaurant. Mais on va avant tout ça ouvrir notre premier chapitre, ou on peut dire aussi l'apéritif. C'est plus de circonstances. Vos études, vous avez tous les deux fait vos études dans le milieu de la restauration ou pas du tout?
Alors moi oui, ouais.
Ouais.
J'ai commencé par un bac pro hôtellerie restauration et j'ai finalisé par un BTS hôtellerie restauration.
D'accord.
C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et,
Et c'était peut-être obligatoire aussi pour se lancer plus tard, non? Pas forcément.
Pas obligatoire, non. Non, non, c'est pas obligatoire. De base, j'aurais bien voulu faire un apprentissage pour être directement dans le métier. J'avais les compétences pour faire des études un peu plus élevées, sans dire que...
Ouais, mais...
Que l'apprentissage, voilà, c'est des mauvaises études.
Oui, vous auriez pu poursuivre après dans quelque chose de plus élevé, licence, etc.
Non, j'ai voulu m'arrêter avant parce que je voulais vraiment travailler.
Et vous, Séverine?
Alors moi pas du tout. De base j'ai commencé mes études en BTS assistant manager pour faire secrétaire. J'ai continué en licence en tourisme durable. Donc ça m'a emmené dans le sud et dans le sud j'ai découvert la partie hôtellerie. Donc tout ce qui était réceptionniste.
Donc déjà un tout petit peu quand même
un
dans
pied,
l'univers.
Ouais, dedans.
Un pied dans l'univers, ouais,
c'est
bien
ça.
Sûr, bien
bah,
sûr.
Je faisais tout ce qui était service petit déjeuner, je servais les boissons aux clients, donc j'avais déjà un tout petit pied dedans. Puis quand je suis revenue sur Nevers, et bah, j'ai dû travailler. Et du coup, j'ai découvert le Buffalo.
D'accord, oui.
Et du coup, bah, le Buffalo m'a mis un pied dans le métier de la restauration. Et après, c'était par passion où j'ai continué là-dedans. Je ne me vois pas faire autre chose, en fait, maintenant.
Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi le plus important dans ce métier-là? C'est le terrain qui prime sur les études?
Un petit peu, quand même, si. Je pense que dès le début, on a besoin de ça. Et du moment qu'on l'a découvert, on n'arrive pas à faire marcher en arrière.
On va se concentrer sur votre entreprise maintenant, un petit peu moins sur vous. En quelle année vous avez ouvert donc votre entreprise?
Alors l'entreprise était ouverte en 2012 et moi je suis arrivé en 2017.
D'accord.
Donc j'ai repris derrière un gérant déjà.
Et vous avez visité plusieurs entreprises avant d'acheter Le Carnot, vous avez...
Non, c'est qu'il y avait une possibilité de racheter cet établissement. Ça s'est fait en 6 mois.
D'accord.
Entre la prise de décision et les premières signatures. Et l'arrivée, les pieds dans l'établissement, ça s'est passé 6-7 mois.
Ouais. Mais c'est une idée qui trottait un petit peu dans votre tête déjà, vous, depuis un moment.
Oh oui, ça faisait un moment déjà, ouais.
De se lancer à votre compte.
C'est ça, ouais. Moi, je voulais absolument me mettre à mon compte un jour ou l'autre, ouais.
Est-ce que vous aviez une certaine appréhension de reprendre, surtout un bar après quelqu'un qui avait peut-être déjà sa clientèle, qui avait ses habitués, qui avait tout ça? Est-ce que c'est ce que vous appréhendiez, vous, en reprenant l'établissement?
Ah oui,
de...
après, il y a toujours une peur, ouais. Toujours un minimum de peur. Après, en 2017, j'avais 23 ans. On est jeune, on réfléchit à beaucoup de choses, mais en même temps, pas trop, on fonce dedans, quoi. On y va.
C'est un des problèmes que vous avez rencontré. Il y a aussi le budget. Est-ce que ça a été compliqué d'apporter des finances et un budget sur ce projet-là?
Ouais, pour avoir les financements, ouais, c'est pas simple. C'est compliqué, ouais.
Vous avez dû emprunter?
Quand on est jeune comme ça, ouais, ouais. J'avais l'obligation d'emprunter, j'étais jeune. J'ai travaillé que pendant 1 an et demi. J'avais pas les moyens pour poser sur la table les financements qu'il y avait, quoi.
C'était compliqué derrière de l'assumer ou pas?
Ouais, c'est toujours compliqué, ouais. Parce que,
on a peur de pas réussir à...
C'est ça, on a toujours peur de pas réussir à le payer, ouais. Il y a des choses où on arrive à décaler avec nos fournisseurs, etc. Un emprunt, tous les mois, il faut le payer. Et si on ne paye pas, la banque arrête, quoi.
Ça fait maintenant 6 ans donc, que vous êtes à votre compte.
C'est ça.
Quels sont les avantages d'être à son compte? En 6 ans, qu'est-ce que vous avez pu découvrir comme avantage que vous ne soupçonniez peut-être pas?
On arrive à prendre plus de temps pour nous, plus facilement.
Ouais.
Mais des fois, c'est compliqué de l'avoir, ce temps. Mais on peut trouver plus de temps facilement, on fait un peu ce qu'on veut, on gère comme on veut.
Ouais, on peut se dire le mardi matin, j'ai pas spécialement envie d'y aller. Si vous avez des salariés, vous en avez combien déjà de salariés?
Là, j'en ai 4 salariés à l'heure actuelle.
Ouais, voilà, donc vous pouvez plus facilement dire, ce matin, j'ai pas spécialement envie d'y aller pour X raison. Voilà.
L'avantage, c'est qu'on peut s'organiser comme on veut, ouais. Si une matinée, on veut pas faire ce qu'il y a à faire et qu'on veut faire autre chose, on le fera le lendemain, on gère comme on veut. C'est un des avantages.
Et les inconvénients?
Les inconvénients, il y en a. Il y en a toujours, que ce soit l'organisation sur la comptabilité, les commandes avec les fournisseurs. Il y a beaucoup d'inconvénients, ouais.
Et il y a les crises qu'on a connues aussi.
Surtout quand on est au début. Parce qu'on ne connaît pas, on est jeune, on arrive, il y a l'URSSAF à payer, on n'était pas au courant.
Ouais, il y a la découverte aussi de tous ces aspects qu'on ne connaît pas forcément aussi.
Au tout début, ouais.
Les impôts, les tout, surtout à 22 ans. En plus, où on découvre la vie personnellement, mais alors vous d'autant plus professionnellement, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Vous avez dû être entouré d'un comptable, j'imagine, etc.
Exactement, ouais.
Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas et qui arrivent. Et...
Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, ouais. Il y a beaucoup de choses où on arrive, on se dit, il y a l'emprunt à payer, il y a les fournisseurs à payer, il y a les salariés à payer, les loyers, et puis on se dit, c'est déjà pas mal. Mais il y en a beaucoup plus, il y en a encore beaucoup derrière.
On va maintenant passer à un sujet important, c'est celui de la relation clientèle. Alors c'est vrai qu'avant vous, Séverine, du coup, vous étiez un petit peu moins concernée par ça, parce que vous avez fait autre chose, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, mais maintenant vous êtes vraiment en devanture de ça, finalement. Oui. Vous êtes la première personne qu'on voit dans le bar quand on vient au Carnot. Quel est votre rapport, justement, avec cette clientèle? Est-ce que vous avez une certaine distance? Est-ce que vous êtes plus dans la familiarité avec eux?
Ça dépend le type de clientèle qui se présente en face de nous. Avec les personnes, on va dire, d'une tranche d'âge de 40-50 ans, on va avoir la certaine distance, la certaine réserve. Parce qu'il faut un minimum de respect, parce que je pense qu'ils sont un peu plus âgés que nous.
Ouais.
Par contre, avec les jeunes, ouais, ça va être de la familiarité, du tutoiement directement. Ce qui fait que notre entreprise reste un minimum familial et qu'on a envie de revenir. C'est bon enfant, quoi.
Je trouve que c'est vachement multigénérationnel aussi. C'est-à-dire qu'on peut facilement parler, si on a entre 20 et 30 ans, avec quelqu'un qui a 40, 50 ans, 50, 60 ans. Enfin, je trouve que tout le monde est assez ouvert et tout le monde va se parler facilement.
Ah oui, un peu de tout.
C'est une volonté de votre part aussi?
Bon, je pense que ça s'est fait naturellement.
Et puis on a une sacrée amplitude horaire, ce qui fait qu'aussi on peut accueillir...
Tout le monde se croise.
Tout le monde. Mmh. Bon, le matin, on a les petits groupes d'anciens qui viennent boire leur petit café. Le midi, après, c'est l'apéro. L'après-midi, c'est les jeunes qui sortent du lycée. Ou pendant les vacances, c'est les petites mamies qui viennent avec leurs petits-enfants prendre une petite crêpe, quelque chose. Puis le soir, on recommence, apéro, les commerciaux qui viennent manger, on croise tout le monde.
Est-ce que, justement, vous avez une moyenne d'âge, un petit peu, de votre clientèle ou pas spécialement? Est-ce que vous êtes déjà intéressé à ça?
J'ai jamais trop regardé. Ça doit bien faire du 35-40 ans. Ouais, bien 35 ans, je pense. Parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes et on a beaucoup d'anciens.
Justement, cette présence des jeunes, est-ce qu'elle continue d'être présente ou un petit peu moins, quand même? J'ai l'impression que les jeunes... Alors, quand je dis les jeunes, je parle un petit peu de ma catégorie d'âge, on va dire, là, autour d'entre, allez, jusqu'à 25 ans, 30 ans même, ils vont un peu moins, quand même, au bistrot. J'ai cette impression-là.
Ouais, peut-être que ça sort un petit peu moins, oui. Mais il y en a toujours. Et il y en a toujours qui viendront, et... Parce qu'ils aiment ça.
Parce qu'ils aiment parler, aussi, et justement... J'ai eu beaucoup de commerçants à l'antenne et il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est le rapport entre tenancier de bistrot et curé de village. On dit beaucoup que le tenancier d'un bistrot, c'est un petit peu comme le curé de village, il sait tout sur tout le monde mais il ne dit rien. Est-ce que ce rapport, vous l'avez aussi avec votre clientèle, de parler de beaucoup de choses, de parler beaucoup de leur vie, et vous connaissez un petit peu votre clientèle peut-être mieux que certains proches à eux,
oh,
mais
oui.
Vous ne dites pas forcément.
Oui, on connaît tout, presque de tout le monde. Toutes les petites histoires, on les connaît. Mais comme on dit, faut rien dire. Faut rester neutre.
Mais vous ressentez aussi cette clientèle des fois qui peut venir juste pour parler?
Oui, il y en a beaucoup.
Ouais. On peut passer 2 heures des fois à les écouter.
Et ça peut être tout type de clientèle. Hein. Ça peut être des jeunes, ça peut être des plus anciens qui viennent tout seuls parce que peut-être qu'ils n'ont pas d'entourage. Ou...
Ouais, une certaine solitude, ouais, bien
exactement,
sûr.
Exactement. Ouais. Ils sortent de chez eux, ils viennent boire leur café, ils discutent de tout et de rien. Et puis ils rentrent à la maison.
Justement, cette clientèle aussi, est-ce que vous l'écoutez sur des conseils, sur ce qu'elle peut vous demander aussi, sur les besoins qu'elle a des fois?
Bien sûr, parce que sans cette clientèle, on ne serait pas là. Donc on est obligé de les écouter. Parce qu'un conseil est toujours bon à prendre.
Qu'est-ce qui revient souvent comme demande, par exemple?
Quand c'est des jeunes, admettons, beaucoup de soirées. Ouais. Ils redemandent, c'est vos soirées, c'est pas mal, c'est bien ce que vous faites. Et les anciens, il n'y a pas trop de demandes, quoi. Bon, ce qu'ils veulent, c'est être tranquille de leur côté, à discuter, et puis voilà.
Et avoir le café le matin à 7h.
Exactement. Et si on pouvait ouvrir à 6h30, ben...
Ouais, pas, ouais, bah seraient, ça, mais de toute façon...
Ils seraient les premiers à être là pour venir boire leur café.
Mais vous savez, les anciens, ils ouvrent les supermarchés avant le personnel. Hein. Ils sont devant Lidl à 6h30, donc ce sera pareil avec vous, je vous rassure.
Et ce qu'ils demandent, c'est d'être ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Ouais, ça, c'est pas possible.
S'il y a 30 heures dans la journée, il faudrait qu'on soit ouvert 30 heures.
Vous êtes fermé un jour dans la semaine, c'est ça?
Là, à l'heure actuelle, en basse saison, on est fermé que le dimanche, ouais. Là, à partir du mois de mai jusqu'à fin septembre, mi-octobre, on est ouvert les dimanches.
Et l'été, vous êtes ouvert tous les jours, c'est ça?
L'été, tous les jours.
Tous les jours.
Tous les jours.
On a parlé du rapport avec la clientèle, mais il y a aussi le rapport avec la concurrence. La plupart des commerçants disent toujours qu'il faut de la concurrence pour travailler. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, s'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de business. Parce que les gens, ils viennent là où il y a du monde.
Ouais. Le monde attire le monde.
Exactement. Donc s'il n'y a qu'un établissement, ils vont moins venir, les gens. S'il y en a 4-5 autour, ça va ameuter des gens et c'est comme ça que les commerces travaillent.
Et la preuve en est encore plus avec vous quand vous êtes entouré de deux autres enseignes aussi.
C'est ça.
Il y en a un qui fait un petit peu moins bar peut-être, mais enfin, ça n'empêche qu'il fait un débit de boisson.
C'est ça.
Et tout le monde y trouve son compte finalement.
Oui, parce qu'il en faut pour tout le monde.
L'important c'est de se démarquer aussi. Comment on se renouvelle régulièrement?
Faut trouver des idées, faut regarder sur les grandes villes ce qui se passe.
Ouais.
Après on a toujours un décalage d'une à deux années. Donc il faut toujours prendre les idées ailleurs.
C'est-à-dire ?
Admettons, ce que Paris va faire.
D'accord.
Va sortir un nouveau produit, admettons.
Ouais.
Chez nous, ça va se répercuter dans un an, deux ans.
D'accord. Parce que les fournisseurs vous l'apportent qu'à partir de ce moment-là, qu'un an après, ils testent avant sur les grandes villes?
Non, parce qu'on est quand même sur une ville médiane.
D'accord.
Et on est bien où on est, quoi.
Ouais. Justement, ça
donc,
aussi...
Faire comprendre aux gens qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent, les faire tester, c'est compliqué. Ils aiment bien... boire un coca, c'est un coca, quoi.
Et justement, cette tarification aussi, elle est importante de l'adapter à la population et à la taille de la ville aussi?
Bien sûr. Là, surtout avec ce qui se passe maintenant, faut faire attention. Et oui, après, faut voir les budgets des gens aussi. On comprend que ça devient de plus en plus compliqué pour tout le monde. Et puis voilà.
Les soirées, c'est primordial aussi dans le renouvellement et dans le toujours plus attirer aussi du monde sur certains événements?
Oui, parce que ça fait plaisir aux gens et ça nous fait plaisir à nous aussi. Comme ça, les gens, ils sont dans une bonne ambiance. Ils peuvent oublier ce qui se passe autour d'eux pendant le temps d'une soirée. Et puis, voilà quoi.
Vous avez parlé aussi de la difficulté que rencontraient des fois certains clients et ça peut s'impacter aussi des fois sur votre activité. On va parler de cette période Covid aussi. Vous l'avez vécu ?
Oui.
Du coup, vous l'avez vécu 2 ans après votre ouverture du coup.
Début 2020, c'était. Oui, ça a été dur. Surtout le premier parce que ça nous est tombé dessus d'un coup. Il fallait s'organiser rapidement avec nos salariés, avec tout le monde, avec nos fournisseurs. Pour le coup, là, pendant ce mois et demi, on n'a pas beaucoup été aidés. Donc, il fallait qu'on tienne le choc personnellement et avec ce qu'on avait. Après la deuxième période Covid, on a eu des aides et on a pu réouvrir comme on avait fermé. Pour le coup, nous, on a eu un peu de chance sur ce coup-là.
La période Covid, c'est plus de 20 000 fermetures de bars, de restaurants en France. C'est même un petit peu plus, mais voilà, on tourne autour de ça. Est-ce que vous y avez pensé ?
À fermer ? Non. Je voulais trouver une solution pour continuer et être là. Je me suis dit faut qu'on soit fort et qu'on y arrive. Et je pense que si pendant le Covid, on n'avait pas cette idée en tête, ouais, on pouvait se laisser couler.
Il fallait pas se lamenter sur son sort.
C'est ça, ouais. Il fallait trouver des solutions, etc. Et après, c'était des solutions avec les fournisseurs, etc. Pour ce qu'on avait à payer, s'arranger. Il y a toujours des arrangements. Après, c'est sûr qu'il y a des entreprises, malheureusement, ils ont des loyers hors normes. Ils n'ont pas eu le choix de fermer.
Ouais, il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que vous êtes dans une ville du coup médiane, comme
c'est
vous
ça.
Le disiez tout à
exactement.
L'heure, et que c'est un petit peu plus simple. Est-ce que vous avez aussi senti ce regain qu'il y a eu après le Covid ? Tout le monde disait que tout le monde remarchait, les bars et les restaurants remarchaient de plein fouet. Est-ce que ça a été le cas ?
Ça a explosé.
Ouais.
On a fait des chiffres, le premier été, c'est des chiffres qu'on n'a jamais fait depuis que je suis au Carnot, quoi. Depuis 2017. L'été a été énorme.
Ça prouve que les gens avaient besoin aussi de revenir.
Bien sûr, gens-là, on les remercie parce que sans eux, on ne serait pas là non plus. Donc ces gens-là, on les remercie d'être venus, d'avoir participé aux réouvertures, à l'ambiance, etc. Même si ça a été compliqué encore pendant un an parce qu'il y avait les distanciations sociales, etc. Ils ont été là.
Mais je pense que cette crise, elle a aussi eu un certain impact aussi dans la tête des gens du faire marcher le commerce de proximité. Alors ça a été le cas sur plein d'aspects, mais ça a peut-être aussi été le cas sur vous du coup finalement.
Je pense, ouais. Après il y a beaucoup de gens, ils ont découvert que aller acheter une boisson à l'hypermarché, faire une soirée à la maison, ça coûtait beaucoup moins cher qu'aller dans un bar. Mais il y en a, ils aiment bien cette ambiance et rencontrer des gens et pouvoir faire la fête, quoi.
Et puis il y a une autre crise aussi, en ce moment on est dans la période un petit peu moins drôle de l'entretien, mais c'est bientôt fini. Il y a la crise de l'énergie en ce moment, est-ce que vous la ressentez ou pas ?
Nous on l'a ressenti légèrement, ouais, comme ils le disent à la télé, aux informations. Il y a des contrats d'électricité, donc il y a des gens, ils ont plus d'avantages que d'autres. Il y en a, leurs factures vont exploser. Nous, elle a augmenté, mais on arrive à la maintenir. Après, derrière, ça nous
fait... On peut avoir un indice de l'augmentation. J'ai eu un boucher charcutier qui est venu récemment. Il nous a, je ne me rappelle plus des tarifs qu'il nous a sortis, mais c'était ahurissant. Est-ce que vous avez un indice, vous, de l'augmentation que vous avez connue ?
Sur l'énergie, là, à l'heure actuelle, on est à peu près à plus de 20%.
D'accord.
Nous, c'est des petites factures, parce qu'on fait très attention, on a fait très attention là, pendant 6 mois avec l'hiver sur les chauffages, etc., sur la lumière.
Ouais.
Donc, ça ne fait pas une grosse augmentation pour nous, mais c'est toujours ça. Et cet argent-là, on aurait pu le garder pour autre chose.
Bien sûr. On va faire tout de suite une pause musicale, et on va revenir après, on va parler de votre carte. On va parler un petit peu de ce que vous proposez aussi, parce que c'est l'objectif de mes émissions, c'est de vous mettre en avant. Juste avant, on va écouter une musique que vous avez choisie. C'est Maître Gims, c'est ça ?
C'est ça, c'est Après vous madame, je crois, c'est ça ?
Ouais, je crois que c'est ça, vous m'avez dit en antenne, ouais, c'est ça. Eh ben on écoute, on revient juste après.
La ville scintille, au loin, dans la nuit, on arrive, massif RS6 fait du bruit, les dames en panique, à leur sac ça grippe, c'est ce qui arrive quand on arrive en ville. Après vous, madame, ouais, après vous, madame. De toute façon, moi, je suis toujours là. Ouais, je suis là tous les soirs. Avec 2-3 fêtards, on refait le monde dans un restaurant. Avant de penser à les chiller, vas-y, fais rentrer les billets. Fais rentrer les billets, violet, vert, orange, bleu, turquoise. Le jean il est déchiré, une allure un peu givrée. J'envahis ton cœur, tes pensées. Mais là je vois qu'il y a du monde dans le rétro. Il y a du monde dans le rétro. Je vois qu'il y a du monde dans le rétro. Je suis concentré sur autre chose. La ville scintille, au loin, dans la nuit. On arrive, massif RS6 fait du bruit. Les dames en panique, à leur sac ça grippe. C'est ce qui arrive quand on arrive en ville.
sous tes pieds les pétales, ouais, ouais. Amar, c'est sale, quand il y a tous mes sables. En fait, j'ai le marchand de sable. Et on t'invite à nos tables, ouais, ouais.
Ça va trop.
Massif RS6 fait du bruit, l'État en panique. Alors ça que ça grippe, c'est ce qui arrive quand on arrive en ville.
Et après vous, madame, et après vous, madame, de toute façon, moi, je suis toujours là.
La dolce vita, la dolce vita, la dolce vita, la dolce vita.
Vous êtes dans Job, l'émission où je tire le portrait d'un commerçant, d'un artisan. Et aujourd'hui, je suis avec Nicolas et Séverine qui tiennent le Carnot, place Carnot à Nevers. C'était le nom du tout début du Carnot. Vous avez racheté le nom ou vous avez changé le nom d'ailleurs?
Quand je suis arrivé, le Carnot était le Carnot déjà, ouais.
D'accord.
C'est okay. Un établissement, ça fait des années qu'il est là depuis.
Ouais.
Je pourrais pas vous dire les dates. C'était un ancien hôtel, après c'est devenu un bar, après bar brasserie.
D'accord.
Voilà. Donc ça a évolué, mais toujours dans l'hôtel à la restauration.
Et justement, on va revenir sur ce que vous proposez dans ce bar, brasserie, restaurant.
Donc dans notre
pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver à la carte?
Alors chez nous, vous allez retrouver une carte vraiment brasserie, mais on fait vraiment tout maison. De nos frites à nos desserts, tout est fait maison. Notre pain vient de chez notre collègue Lucas,
la boulangerie juste à côté
de nous. Et voilà, tout est vraiment fait maison. À part un ou deux produits où on n'a pas le choix. Mais sinon, nos sauces, nos fruits, tout est fait maison.
C'est vrai que moi, ça fait pas très très longtemps. Alors, je parle pour moi, mais je sais que je parle au nom de plein de gens dans Nevers. Je suis arrivé il y a pas très très longtemps à Nevers, à vivre à Nevers, j'entends. Et quand je suis passé devant chez vous, je me suis fait cette réflexion tout de suite. C'est, bon après c'est pareil, j'ai beaucoup baigné dans ce milieu-là, donc j'arrive à voir. Il n'y a pas beaucoup de choix, donc je me suis dit, c'est forcément de la qualité, du moins j'espère. Je ne pouvais pas le savoir parce que je n'avais pas encore testé. Et c'est vraiment une volonté de votre part aussi de ne pas avoir beaucoup de choix pour être sûr de proposer de la qualité.
Bien sûr, pas beaucoup de choix, ce qui permet de présenter aux clients des produits frais, des produits faits maison. Parce que plus on en a, plus il y a de la mise en place, plus il faut de l'organisation. Et à un moment donné, on est bloqué pour nos produits de qualité, nos produits faits maison.
Vous faites restauration, vous faites aussi bar. Quel est le pourcentage sur votre chiffre d'affaires entre le bar et le restaurant?
Sur une année complète, on est à peu près à 50-50.
D'accord.
Voilà.
Ah, je pensais que la restauration apporterait un petit peu plus.
Non, parce qu'arrivé à la basse saison, ça peine un peu plus automatiquement. Mais ça s'équilibre à l'année.
Et puis vous faites des soirées aussi, ouais. On en parlait tout à l'heure. Alors il y a des soirées qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. Il y a eu la Saint-Patrick, c'est notamment, ça. Je pense. Il y en a d'autres à venir. Vous anticipez les soirées sur combien de temps? Sur un mois, deux mois?
Là, on va arriver sur la belle saison. Là. Donc là, on va commencer à se poser pour réfléchir à ce qu'on va faire cet été. Mais oui, ça va être 5-6 soirées.
D'accord. Et sur cette communication des soirées, justement, c'est important aussi de beaucoup communiquer. Comment vous travaillez sur cette communication
du... Alors, nous, on fait de la communication sur les réseaux, principalement. Voilà, sur Instagram, sur Facebook. Après, il y a beaucoup de bouche à oreille. On a une télé, on l'affiche sur la télé, ce qui permet que les gens, au passage, ils voient ce qui se passe.
On parlait en début d'entretien de vos premières expériences respectives. Maintenant, on va parler aussi de comment vous participez, vous, à inculquer votre métier à travers la transmission. Est-ce que vous prenez des apprentis, des stagiaires?
Or, j'ai jamais eu d'apprentis, mais on prend des stagiaires, oui. Souvent, ça arrive. Et la preuve, notre cuisinier, c'est quelqu'un qui sort de l'AFPA.
Donc, Tony.
C'est ça exactement. Qui est un organisme de formation. On l'a pris en stage, ça a duré un mois, je crois. Et on est arrivé sur la saison estivale. Et puis on s'est mis en accord pour continuer tous les deux dans le temps. Et maintenant, il est en CDI, ça va faire 4 ans, je crois.
Et là, justement, il y a cette saison estivale qui arrive. Vous recherchez des jobs, des jeunes?
Oui, là, à l'heure actuelle, on cherche 2 personnes, que ce soit une personne en cuisine et une personne en salle.
D'accord.
Pour nous aider, puis s'ils veulent apprendre aussi. Ça peut être des étudiants qui ne connaissent pas le métier, qui veulent voir comment ça se passe. Et ça peut être sympa autant pour eux que pour nous.
Et là, Séverine, c'est vous en salle qui participez à... Alors, montrer comment il faut faire, alors? Les smoothies, par exemple?
Oui, les milkshakes, plutôt.
Les milkshakes, avec ça.
Ouais, bah ça, on est deux, donc on est deux à leur inculquer. Parce que du coup, entre le midi, le 16h, le 18h, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc ouais, le but, c'est de leur transmettre peut-être la passion du métier ou au moins le savoir-faire.
Qu'est-ce que vous recherchez comme qualité chez un jeune qui vient soit pour un job d'été ou qui vient même après pour un emploi plus durable, hein?
Quelqu'un qui est dynamique, qui aime bien quand même discuter avec les gens, parce que comme on le dit, le client aime discuter... avec ceux qui
qu'il soit accueillant, qui tire pas à la tronche quand quelqu'un arrive, c'est important.
Donc, qui est dynamique, qui est souriant, qui aime discuter et puis qui aime bosser.
C'est important le dynamisme de la personne, mais comme vous dites aussi, il y a différents moments de la journée, il y a le midi, il y a le soir aussi. C'est important de lui montrer comment il faut être différent tout au long de cette journée.
Différent, oui, c'est ça. Et puis comment il peut gérer lui-même. Parce qu'il faut gérer, y a un stress à gérer, il y a des gens à gérer, il y a des services à gérer. Parce qu'entre gérer un service du café le matin pendant 4 heures et gérer 50 couverts le midi ou le soir, c'est deux salles, deux ambiances.
C'est compliqué de trouver un jeune maintenant, à l'heure actuelle, qui veut bien venir travailler, par exemple, 6 jours sur 7.
C'est pas simple, ouais. C'est pas simple. Après, il y en a, ils croient que ça se fait comme ça. Ça se fait pas comme ça. Il y a du boulot, faut qu'ils viennent, faut que ce soit dynamique. Après, tout dépend de la personnalité de la personne. On peut trouver une personne en entretien, on se dit ça va pas passer. Ouais. Et au final, c'est jackpot et c'est la bonne personne.
Là, on est en avril.
Oui.
Vous cherchez pour juin-juillet, c'est ça?
Mai jusqu'à fin septembre.
Pour mai. Combien vous avez de propositions à l'heure actuelle?
À l'heure actuelle, je vais avoir 400 CV.
D'accord.
400 CV pour 2 postes. Comme on dit, les étudiants, ils sont encore en études, etc. Ils ont peut-être pas pensé à ce qu'ils veulent faire cet été.
Donc s'il y en a qui nous écoutent et qui cherchent un
exactement,
job...
Exactement, oui. Que ce soit les lycées ici ou d'ailleurs...
Il faut juste avoir 18 ans, quoi.
Il faut avoir 18 ans,
oui. Ça, c'est obligé. Et la période estivale arrive, la saison touristique aussi. C'est important pour votre établissement, ce moment-là de l'année. C'est un des plus importants de l'année, si ce n'est pas
bien
le plus
sûr,
important.
Bien ouais. Sûr, notre les établissements de restauration sur des villes comme nous, c'est beaucoup de saisonnalité. Donc on bosse très fort l'été et beaucoup moins l'hiver. Donc automatiquement, l'été, c'est notre saison, quoi.
Est-ce que la fréquentation touristique, elle a changé au fur et à mesure des années?
Pas spécialement, ils sont toujours là. Les étrangers, il y a toujours des étrangers qui viennent. En plus, à Nevers, on a Sainte-Bernadette, on a la cathédrale, on est en plein centre de la France. Donc ça vient.
Il y a du passage,
ouais.
On va aborder ensemble le dernier chapitre. Avant la conclusion de cet entretien, on parlait tout à l'heure d'apéritif. On pourrait dire maintenant qu'on est au digestif. Comment vous voyez évoluer professionnellement?
Dans le temps, ce serait d'avoir notre affaire à tous les deux. Parce que Séverine est ma conjointe. Et le but serait, pourquoi pas, si elle est ok.
Qu'elle soit plus salariée mais patronne.
Exactement. Et qu'on y aille tous les deux, que ce soit à Nevers ou ailleurs, on sait pas. On sait pas ce que l'avenir nous dira. Hein.
C'est une volonté de votre part?
Ouais, de le voir rien qu'en tant que patron au Carnot. Bah, moi déjà, j'ai même plus ce rapport en tant que salarié. Je suis salarié, mais j'ai l'impression de un peu commencer à manipuler.
À voir tout ce qui se passe, ouais. À voir l'envers du décor.
Mais c'est peut-être aussi. La bonne situation pour pouvoir se lancer après, derrière, dans une autre affaire.
Ah oui, bien sûr. Ce qui nous permettrait d'avancer pour autre chose, ouais.
Vous êtes plus dans une optique de prendre une affaire, mais pas d'en reprendre une deuxième. Par exemple, sur Nevers.
Ouais, non. Je préfère faire les choses bien avec une affaire qu'avoir deux affaires et peiner à gérer deux affaires, ouais.
Mais dans l'idéal, ce serait quand même de rester sur Nevers.
Pourquoi pas, on sait pas.
J'ai quelques questions avant de finir, comme ça. Est-ce que pour vous, c'est possible de vivre uniquement du bar à l'heure actuelle?
De la brasserie ou juste bar?
Non, juste bar. Juste d'un débit de boisson.
Non, pas sur notre type d'établissement.
Est-ce que pour vous, les cafés sont voués à disparaître?
Non.
Il y en a beaucoup qui disent ça. Il y a beaucoup de choses là-dessus qui se disent que les cafés disparaîtront.
Je pense pas. Les clients, les gens, ils ont toujours besoin de ça, pour se retrouver surtout.
Et enfin, quel profil faut-il pour tenir un bar-brasserie? Pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être sont dans l'optique de se lancer, qui ont dans un coin de leur tête l'idée de se lancer dans cette activité-là, qu'est-ce qu'il leur faut?
Après, je pense pas qu'il y ait de profil type. Faut s'engager, faut avoir du courage, être dynamique, faut trouver un bel entourage, parce que l'entourage, c'est ce qui permet d'avancer aussi. Parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un autour de nous pour avancer. que ce soit un conjoint ou que ce soit des fournisseurs, etc. Mmh. Avoir une bonne entente avec eux. Parce que si on n'a pas d'entente, on n'a pas d'accord. Mais après, les problèmes...
Faut les mettre de côté aussi, quand on travaille, être accueillant à votre image. Merci Séverine, merci Nicolas d'avoir accepté mon invitation sur Bac FM pour parler de votre profession et de votre établissement. Je le rappelle, le Carnot Bar Brasserie à Nevers. Allez-y, si vous ne connaissez pas, c'est chaleureux, c'est accueillant. Et c'est surtout important de soutenir les commerces et d'autant plus quand ils sont jeunes. Merci.
Merci.
Il y a une phrase de Jean-Yann, pour finir, que j'aimerais dire, qui disait que la terrasse, ça fait vacances, le comptoir, ça fait boulot, les beaux jours reviennent, ça tombe bien, alors foncez en terrasse après le boulot. Merci à vous.
Merci.